Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Propulsé par mademoiselle.com.
Ah ouais.
Ah, swing.
Bonjour. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 127e épisode de Laisse-moi kiffer pop pop pop. Aujourd'hui, j'ai une tablée formidable et j'ai concocté des petites phrases d'introduction.
Oh my god!
Bra!
Est-ce que t'ajoutes une rubrique?
Combien de fois je l'ai dit qu'il fallait ajouter ce morceau? Parce que dans les grosses têtes, alors... Ricky commence toujours.
Est-ce que je peux t'introduire avant que tu commences à parler? Merci.
J'espère que ce sera une introduction.
Non, mais t'as pas dit que c'était mon idée, à la base c'était mon idée. Donc,
Vas-y, Alix.
C'est voté. L'idée de Laurent Ruquier, donc voilà.
Peut-être de Catherine Barbe. J'arrête.
Oh là là.
La Ruquier culture dans ce podcast, pas trop loin.
Son rire, s'il ne vous a pas percé les tympans, vous réchauffera le cœur. C'est Kalindi qui est avec nous ce soir.
Merci.
Putain. Elle sait mettre du contexte, même sur les sujets qu'elle ne maîtrise pas, c'est Mimi.
J'adore. J'ai envie d'en faire ma bio Twitter. C'est incroyable.
Et enfin, la douceur cuivrée de sa chevelure nous donne envie de nous foutre en kilt, c'est Manon.
Ouais.
Bonjour.
Bienvenue Manon.
Bienvenue Manon. Est-ce que tu peux te présenter, car c'est la première fois que tu fais un épisode de Laisse-moi kiffer.
Alors, je ne suis pas écossaise, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais je travaille pour Rocky, le magazine des mademoiselles qui ont grandi, où on est un peu plus vieille, où on a un peu d'enfants, mais on a quand même une âme, on est très sympa et on mange pas les gens. Bonjour.
Un peu d'enfants, pas trop, mais
pas
un
trop.
Peu.
Un peu d'enfants.
C'est un bit of enfant.
Mais c'est vachement bon.
Mon père, il faisait toujours cette blague.
Ça y est, ça veut dire que je fais des blagues de daron. C'est ça?
Oui.
Il me disait, tu l'aimais bien ton petit frère? Je dis oui. Il me fait, bah reprends-en.
Ah, moi aussi, je fais cette blague.
Ah, les darons,
ça
ma
marche
passion.
Avec le chat, le chien, avec tout quoi. Voilà.
Oh, est-ce que on pourra. Digression numéro 1.
C'est parti.
Est-ce qu'on pourra mettre dans les notes de ce podcast? J'ai trouvé un tweet incroyable qui dit. Citez ce tweet avec une anecdote qui montre à quel point votre daron fait partie de la confrérie des darons un peu à l'ouest. Et tous les gens l'ont cité
genre avec
des trucs. Ouais. Et tous les gens l'ont cité avec des trucs genre il y a un mec qui a mis une photo de son daron en train de se poncer les pieds à la ponceuse à bois sur la terrasse.
What?
Il y a un mec qui dit une fois mon daron il était venu à l'école et il s'est posé sur un banc au milieu de la cour et il a mangé son kebab et il m'a même pas vu et du coup il y avait juste son daron qui mange un kebab au milieu de sa cour. Enfin, que des trucs incroyables et ayant moi-même un daron un peu à l'ouest, c'est ma passion, j'ai tellement ri. Du coup, je pourrais mettre le tweet dans les notes du podcast et
bien
vous irez voir les tweets cités, c'est très drôle.
Moi, c'est le père de ma coloc qui envoie des photos à ma coloc, mais tu sais. On a reçu un colis aujourd'hui et c'est une photo floue d'un carton. Et c'est vraiment ma passion, c'est que des photos floues, tu sais, de trucs. On mange une soupe et c'est genre un bol un peu.
J'adore.
C'est beaucoup trop rigolo. Voilà, si vous aussi vous avez des commentaires, des anecdotes de vos papas à côté de leur pompe, n'hésitez pas à nous les envoyer. Ah.
Nouvelle rubrique. Non, c'est faux.
Pitié, pas de nouvelle rubrique. On va commencer par la première rubrique, les commentaires.
Ouais.
Qui a des commentaires
moi
ici?
Ah,
Kalindi.
J'ai mieux qu'un commentaire. J'ai une lettre.
Oh wow.
Que je vais lire.
Oh my god.
J'ai décidé d'être ultra
placide. C'est une carte.
C'est une carte avec des sapins. Ou peut-être des loups.
Pourquoi qui
hurlent à l'engueule tout le monde.
Je vous préviens, je suis de très mauvaise humeur. Je le dis aux auditeurs.
Ça va être un super
podcast. Auditeurs, je l'ai dit avant, je suis de mauvaise humeur. Donc voilà.
On a toutes alors, très mal dormi, à part Mimi.
Moi, ça va super.
Ouais, j'ai mal dormi. En fait, hier, j'avais prévu, si vous voulez tout savoir.
évidemment qu'on veut tout savoir.
De faire un velouté de chou-fleur. Sauf que, en fait, la personne chez qui je devais faire cette soupe n'avait pas de mixeur. Donc je me suis retrouvée avec un chou-fleur, pas de mixeur. Et du coup, j'ai mangé une pizza. Ça m'a plutôt énervée.
C'est vrai qu'avec un chou-fleur, comme il n'y a qu'une recette, s'il n'y a pas d'autres. De mixeur, tu peux pas faire autre chose.
Non, mais j'avais pas envie de le faire poêler, je voulais boire une soupe. Donc tant pis, j'ai mangé une pizza. Ça m'a mise de très mauvaise humeur, j'ai passé une mauvaise nuit, je suis de mauvaise humeur, même le lendemain. Voilà.
Tout ça, c'est un chou-fleur quand même.
Alors, salut Kalindi. Je te souhaite une belle et heureuse année 2021. Je t'adresse ce petit cahier de poésie, ma réalisation de 2020, en collab avec mon amoureux et deux super copines. J'ai subitement décidé de t'en faire parvenir un exemplaire après l'écoute dans le train Retour de Noël qui me ramenait à Paris, du podcast où tu présentais les ateliers d'écriture de Mademoiselle. J'ai trouvé tes mots parfaits, tout a résonné en moi, la peur d'oser, la passion d'écrire, l'importance de mener à bien un projet jusqu'au bout, l'importance d'être fière de ce qu'on produit. Évidemment, je me suis jetée sur la page d'inscription à l'atelier, évidemment, c'était déjà complet. Alors j'ai décidé de t'offrir un exemplaire de mon petit livre, de ce projet qui m'a rendue fière en 2020. Pour souligner ce déclic, cette petite vague vraiment cool que j'ai ressentie me chatouiller en t'écoutant présenter cet atelier, ton projet à toi, dans LMK, juste comme ça. En attendant de pouvoir participer à une prochaine session, si je m'enhardis à nouveau. Rien n'est moins sûr. Trois petits points.
Oh, et donc, là là, mais,
ah merde,
quoi,
mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, j'ai laissé le truc là-bas. Bon, bref, cette carte est arrivée, bien sûr, sinon ça n'aurait pas d'intérêt, avec le petit cahier de poésie de cette jeune femme qui s'appelle Anne. Et j'ai trouvé ça très sympathique de nous offrir ce petit cahier de poésie que je n'ai pas encore lu, mais que je lirai bien sûr tout prochainement et vous ferez de même, j'en ai aucun doute.
Putain, mais c'est trop évidemment. Mimes.
Ouais, c'est grave. Trop mimes.
Putain, la petite carte et tout.
Ouais, on l'adore. Ah, mais du coup, j'ai dit... Ah, mais voilà, c'est ça que je voulais faire. Parce que Inception, du coup, je lui écris sur Instagram « Merci beaucoup » à cette jeune femme. Et elle me répond, et je lui dis « Peut-être que tu auras une surprise dans le prochain Laisse-moi kiffer ». Et elle me dit « Merci mille fois, j'adore te suivre. J'ai hâte d'entendre le prochain LMK. Pareil, je ne m'y attendais pas, mon Dieu. Aujourd'hui, j'ai laissé un com à Alix, justement, car vous m'avez fait trop rire ce matin avec cette histoire de vitraux à Chartres. Dans la vraie vie...
Écoutez, qui sont, ça. Rappelons-le, poussiéreux.
Exactement. Dans la vraie vie, je suis chercheuse dans un labo de chimie et ma thématique, c'est l'étude de l'altération des vitraux.
Mais
alors, imagine ma réaction quand tu as parlé de nettoyage au Swiffer. J'espère qu'elle te racontera. Bref, bisous, on verra pour l'atelier, je vais guetter l'inscription. Incroyable.
Trop mignon.
Je savais que j'avais bien fait de parler des vitraux.
Mais oui. Incroyable. Mais
oui. Dingue.
Incroyable. Bah, merci beaucoup, Kalindi, pour ce commentaire. Super. Mais c'est magnifique, en tout cas. Je suis très émue. Mais c'est vrai, ça m'émeut beaucoup les gens qui se déterrent comme ça et qui écrivent des si belles choses.
Grave.
Grâce à Laisse-moi kiffer.
Grâce à Laisse-moi kiffer, c'est fou. Mimi, quel est ton commentaire?
Alors, moi, c'est un commentaire reco de mes auditrices, pas de moi, donc c'est pas un mini-kiff glissé parce que j'ai pas encore écouté ce dont elle parle. C'est Frenchy Mamou qui me dit. Hello Mimi, j'espère que 2021 commence bien pour toi. Je voulais te remercier de m'avoir fait découvrir les podcasts très longs sur des œuvres spécifiques. Qui sont, vous le savez, ma passion. Tu avais parlé dans LMK d'un podcast qui décryptait À la croisée des mondes, qui est mon livre préféré de tous les temps. Perso, j'avais pas des masses accrochées à celui, donc je pense que c'est celui que moi j'avais recommandé, de Girls Gone Canon. Mmh. Mais j'ai découvert un autre podcast sur ce thème qui s'appelle Extraneus et qui est génial. Bref, tout ceci pour te dire qu'il y a quelques jours, j'ai découvert, et là je place un big up à Soraya, c'est moi Mimi qui place un big up à Soraya, un podcast qui décrypte le film Titanic, scène par scène.
Wow.
Et ils en sont qu'à la moitié du film, il y a déjà 16 heures d'écoute. C'est la meilleure chose pour moi qui suis une fan inconsidérée, à la fois de l'histoire du paquebot et du film. J'aurais jamais eu l'idée de chercher des podcasts longs sur des livres films que j'aime, donc merci de m'avoir indirectement ouvert la porte à ce genre de découverte. Ce à quoi j'ai évidemment répondu, c'est quoi le podcast? Est-ce que je vais l'écouter? Oui. Et le podcast s'appelle James Cameron's Titanic Scene by Scene. Et elle me dit, j'ai passé la journée à écouter ça. Je pensais être une spécialiste de Titanic, mais j'apprends quand même des trucs, c'est vraiment chouette. Donc voilà, contente de savoir qu'on est au moins deux dans ma team d'écouter des podcasts de 16 heures sur une seule œuvre, qui du coup en fera sûrement 35 à la fin, puisqu'ils en sont qu'à la moitié du film.
35.
Et hâte d'écouter James Cameron scene by scene avec vraiment tous les plans de Titanic analysés. Ça va être... Prochain confinement, je suis chaud, tu vois, je suis paré, c'est bon.
Waouh. Mais c'est fou. Mais du coup, est-ce que tu te... En fait... Moi, je sais pas si ça marcherait pour moi parce que j'ai pas une mémoire visuelle.
Alors, ça dépend à quel point ils décrivent bien les scènes parce que j'avoue que autant Titanic, j'ai vu beaucoup de fois, j'ai pas non plus toutes les scènes en tête par cœur. Mais je pense que ça doit être l'aspect historique et tout qui est intéressant, tu vois. Même si t'as pas exactement la scène, s'ils disent bah là, la cheminée qu'on voit sur le bateau, elle a été reconstituée, machin, par rapport à des trucs d'époque, j'imagine que tu peux te faire une idée.
Ouais. Ok. Bon bah trop bien. Merci beaucoup pour
merci
ces
Frenchy Mamou.
Si vous avez des kiffs à faire passer en commentaire, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur
Apple Podcast
avec
5 étoiles.
Merci.
Moi, c'était un DM et du coup, j'étais là, quoi ? Il faut les laisser où ?
Bah, il faut les laisser. Vous pouvez les envoyer en DM, bien sûr.
Bah mais... oui, sinon, on n'a pas de commentaires, on passe pour les mauvais élèves.
Mais oui, mais moi, je lis les commentaires sur Apple Podcast et d'ailleurs, j'en ai un qui s'appelle La pétition la plus importante, c'est de Classique Chloé. Hello LMK, en parlant de Undo Stress, donc c'est un épisode qui date un peu.
J'étais pas du tout sur une pétition autour d'Undo Stress, donc soit on va retomber sur ma pétition, mais je vois pas comment, soit c'est pas du tout ce à quoi je pensais.
À quoi une pétition pour que cette incroyable série soit diffusée sur Netflix?
Mais vrai. Oui, c'est vrai, on l'a dit plusieurs fois.
Voilà. Sinon, merci d'égayer mes trajets, je vous kiffe. Je crois que si je participais à LMK, je dirais chaque semaine que mon kiff et votre podcast, ne changez rien, vous êtes super.
Oh, merci.
Trop mignon, trop mimi. J'ai aussi un autre commentaire moins marrant. Alors, parce que vous savez, on dit beaucoup de conneries, parfois il faut savoir se rattraper.
Ah, qu'est-ce qu'on a dit ?
Non, mais c'est moi, en fait, j'ai parlé en long, en large et en travers du Puy du Fou. Sans savoir que en fait il y avait eu tout un bail de violence sur les animaux faite au Puy du Fou. Donc faites attention avant de jeter votre argent à Philippe Devilliers pour regarder des Vikings s'enflammer avec de vraies flammes, parce que c'est X Clémentine qui m'a dit salut, je suis en train d'écouter le dernier épisode de LMK dans lequel tu parles du Puy du Fou. Je pense que je vais pas être la seule à t'envoyer un message à ce propos, mais je peux pas vraiment passer à côté de ça. J'ai été une grande amatrice du parc quand j'étais enfant, mais maintenant que je suis adulte, je peux comprendre ce qui se passe vraiment derrière. Au-delà des assauts vraiment très répréhensibles dans lesquels va l'argent qu'on dépense dans le billet d'entrée, il y a eu de nombreuses accusations grave de maltraitance et de cruauté animale au sein du parc. Hugo Clément a dénoncé ça sur son compte Insta récemment, si tu veux aller voir sa vidéo. Bref, désolé pour les messages, pas très fun, mais je trouve ça important de le préciser, notamment pour pas inciter les auditeurs à aller donner de l'argent à cette organisation abjecte. Donc voilà, je trouvais ça important de le préciser. Moi, c'est un truc que j'ai complètement... j'ai pas du tout été au courant. Et c'est, elle dit qu'elle pense qu'elle n'est pas la seule à m'envoyer ce message. C'est vraiment littéralement la seule. Donc je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est au courant.
Ah oui, c'est pas si connu que ça, quoi.
C'est pas si connu. Donc voilà, je voulais vous dire avant de vous ruer en Vendée.
Alors allez en Vendée quand même. Pas forcément au milieu.
Voilà, c'est ça. Sinon, j'ai une anecdote de star.
Ouais.
Alors, les anecdotes de star, vous le savez, ce sont des anecdotes avec soit des star bof, soit c'est des anecdotes qui sont bof avec des grosses stars.
C'est soit bien. Des fois les deux, c'est bof de tous les
deux. C'est bof les deux.
Il y a jamais, j'ai croisé Vincent Cassel, il m'a roulé une pelle,
si,
on est mariés,
bah attends, on a eu Vincent Cassel la dernière fois.
Ça finit pas, oui, enfin, c'est toujours une anecdote.
Oui, mais c'est toujours bof.
On n'a jamais superstar, super anecdote généralement. Il y a du foirage quelque part.
Ma préférée reste jusqu'à aujourd'hui, celle de Pascal Obispo.
Oui,
incroyable. Très fan. Bonjour, bonsoir Alix, j'ai une anecdote très bof. L'autre jour, je rentrais chez moi, j'habite à Quimper, à deux pas de la cathédrale, la Bretagne, meilleure région du monde. J'espère que Mimi n'est pas présente quand tu liras ça.
J'adore la Bretagne.
Bon, on n'a pas
l'histoire de... Mais c'est fou, hein, parce que les autres, ils disent pas où ils habitent, tu vois, ils disent pas leur région, mais la Bretagne, oui, c'est fou.
Non, mais ça a un lien avec la Bretagne. Bon, on n'a pas d'histoire de ouf, hein.
C'était Astérix qui a... Je me tais.
Mais bref, j'ai découvert que Pascal Jaouen habitait à deux immeubles au-dessus du...
C'est qui Pascal Jaouen? Alors elle là, va te le dire, parce qu'elle m'a parlé de cette anecdote tout à l'heure. C'est extraordinaire.
Bah, Pascal Jaouen, du coup, c'est une star bretonne. Je vais vous lire exactement sa biographie, son extrait Wikipédia. Pascal Jaouen, né le 19 mai 1962 à Quimperlé, est un brodeur et styliste français de culture bretonne.
Oh, BG en vrai.
Voilà, il est broderiste.
Brodiste
Brodiste, brodeur. Brodicien. Et a ouvert plusieurs écoles de broderie. Écrit quelques livres, réalisé des créations sur mesure et des collections de prêt-à-porter, aujourd'hui inspirées par les broderies bretonnes traditionnelles. Et comme on parlait de broderie dans le dernier
mais
épisode...
Mais oui, c'est ta future vie, ça, Mimi. Alors, tu es la future
est-ce
Pascal
Jaouen.
Est-ce
que j'ai retouché à mon cercle à broder mes couilles là, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé?
Non. Non.
J'ai mis 3 jours à remarquer que mon mec l'avait mis dans un placard, donc on n'est pas fort. Mais je vais m'y mettre.
Je
vais essayer d'en acheter un. Ouais. Tu kiffes ça?
Alors franchement,
non, je kiffe regarder, mais je suis sûre que je vais pas le faire. Mais je vais l'acheter pour me dire, je vais le faire. Mais je vais pas
attends
le faire.
Attends 2 semaines, je te file le
ouais,
okay. Je vais pas le
faire. Je vais faire de la récup. Moi, jamais, c'est un truc que je me dirais dans ma life. Je vais faire de la broderie, genre. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie d'entamer, mais la fucking broderie, je suis là.
Mais c'est si joli quand c'est bien fait.
Non, mais déjà, moi, si c'est pas un truc sublime, je trouve ça boring. Donc, non, mais
rappelons,
je vous dis
que la semaine dernière, elle m'encourageait à fond. Tu vas y arriver.
Non,
ce
mais
sera
la...
super.
La semaine dernière, humeur. J'étais de bonne humeur. Hein, vous savez, ça tient un chou-fleur tout ça.
Je finis quand même de vous lire le mail de... Ah ben, j'avais pas dit son nom. Argantael Kerguietk.
Bah, heureusement qu'elle a précisé qu'elle avait qu'un père parce qu'on n'aurait pas deviné sinon.
J'aurais dit Corse comme ça. Mais... Est-ce qu'elle est mauvaise?
C'est pas gentil. J'adore les Bretons. Moi.
Mais moi aussi. Presque tous.
Donc voilà, elle me parle à moi. Elle dit, je sais que tu es à moitié bretonne, donc j'espère au moins... Toi, sauras de qui je parle. Eh bien non, je ne connaissais pas Pascal Jaouen. Malheureusement, c'était ma partie vendéenne apparemment.
Mais attends, t'es à moitié bretonne ?
Ben oui, bien sûr.
Je suis 50% bretonne. Ah ouais, d'accord.
50% okay. Bretonne, 50% vendéenne.
Oh, bon,
attends, mélange inspirant.
Mélange exotique.
Exotique.
Une belle brioche.
Voilà, elle dit bisous les LM kiffeurs. Je vous aime toutes. J'adore vous écouter. J'en profite pour faire une dédicace à tous les Quimperoises et Quimperois qui écoutent ce merveilleux podcast qui est LMK. Love sur vous, Argantael de Quimper en Bretagne.
Mimi a pris l'air de plus fatiguée.
Bisous la Bretagne. Bisous la communauté bretonne et les Quimperois. J'ai aussi une dédicace. Alors, je reçois en ce moment beaucoup de dédicaces à l'écrit. Donc, c'est pas celle que je privilégie en général quand vous m'envoyez des dédicaces audio. C'est celle que je mets dans les podcasts. Mais c'est vrai que je reçois beaucoup de dédicaces écrites, donc j'en fais de temps en temps. Et là, notamment parce que c'était une dédicace anniversaire qu'on a quand même ratée, puisque c'était la semaine dernière.
Oh non !
Enfin, c'est le jour où on enregistre. C'est aujourd'hui son anniversaire. Ah. Mais quand vous écouterez ce podcast, ce sera la semaine dernière. Waouh ! Salut Alix, une petite dédicace pour un anniversaire en espérant qu'il soit diffusé d'un jour. Aujourd'hui est un grand jour car je prends enfin le temps d'écrire une dédicace à ma Clo-Clo et pas pour n'importe quelle raison. En effet, la date de sortie du prochain LMK coïncide avec son anniversaire. C'est digne d'une coïncidence d'octobre, non ? Même si je m'y prends un peu tard et que cette dédicace ne sera pas diffusée le 21 janvier, ce sera une surprise à retardement. Après tout, pourquoi ne pas fêter tes 23 ans et 7 jours sur cette planète ? Alors plein de bisous et encore un joyeux anniversaire à celle qui sera toujours ma cousine numéro 1 et surtout celle sans qui je n'aurais jamais découvert LMK.
Wow. C'est mignon.
Mais qu'est-ce que c'est mignon.
Est-ce qu'on chante joyeux anniversaire ?
Allez.
Je propose pour faire plaisir à Kalindi qui est déjà de bonne humeur. Allez.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Alice.
Joyeux anniversaire.
Clo-Clo.
Joyeux anniversaire.
De la part d'Alice.
Vous savez qu'à chaque fois que je chante joyeux anniversaire, je me rappelle de cette scène dans Robin des Bois où t'as le grand couillon là avec sa tête de rat qui vient et qui chante joyeux anniversaire et à la fin il fait
ah oui,
et donc je fais toujours
trop peur.
Et à chaque fois je pense à lui.
Il parle comme ça.
Joyeux anniversaire.
Et moi très souvent on compare ma voix à celui qui chante il est 8h.
Il est 8h et tout va bien.
Et alors voilà.
C'est Nick Douille.
C'est Nick Douille exactement. Je trouve que ça me va bien.
Mais c'est pas une tête de rat, c'est un loup.
Oui, c'est un loup, et autant pour moi. Je me demandais pourquoi le rat était plus gros que Robin des Bois qui est un renard.
C'était pas logique.
Ça fait sens.
Physiologiquement, c'est pas normal.
Voilà.
Bah, merci beaucoup, Nick Douille. Est-ce qu'on peut appeler Kalindi Nick Douille pendant tout le podcast?
Non, j'ai peur d'elle.
Bon, allez, c'est l'heure des kiffs.
Allez.
On a fini cette introduction. On entend le jingle.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
C'est les kiffs, les kiffs, les kiffs, les kiffs, c'est les kiffs, c'est maintenant les kiffs.
Waouh, merci Valentin, si merci. Vous aussi, vous avez des jingles à nous envoyer, envoyez-les-nous à laisse-moi kiffer@mademoiselle.com, ainsi que vos dédicaces.
manuelfaitlesbacs.com.
J'adore avoir des bacs.
Appelez-moi pour les mariages.
On commence tout de suite avec le kiff de Mimi.
Oui. Alors mon kiff, en l'absence de Cédric, j'étais donc sûre de ne pas faire doublon, est un jeu vidéo. Alors peut-être que vous allez me surprendre, mais je me suis dit j'ai des chances d'être la seule à parler jeu vidéo.
J'ai vraiment peu de chance quand même.
Ce n'est pas un jeu vidéo à narration non linéaire, puisque celle-ci est plutôt linéaire, même si on peut choisir de faire ce qu'on veut. Donc, story time, il y a un jeu qui s'appelle Stardew Valley, qui est sorti, qui a été développé par un seul gars qui s'appelle Eric Baron, alias Concerned Ape, c'est son nom de scène. Et en fait, il a développé tout seul ce jeu en s'inspirant d'une saga Nintendo assez connue qui s'appelle Harvest Moon. Le principe de Stardew Valley, c'est que c'est un jeu tout mignon en pixel art, hyper chou. Et on joue quelqu'un qui hérite de la ferme de son grand-père et il faut qu'on remette la ferme en état puisqu'elle est un peu abandonnée. Donc il faut planter des graines, on vit dans une petite... Il y a notre ferme, il y a une petite ville. Il faut planter des graines, récolter les trucs, adopter, construire un poulailler pour avoir des poulets, blablabla. Déjà, ma life, je suis contente.
Est-ce qu'il y a des chevaux ?
Il y a un cheval, tu peux avoir un cheval.
Donc tu peux le transformer en jeu de cheval ?
Alors vraiment, les capacités du cheval se limitent à tu le montes dessus et il court.
Est-ce qu'il peut faire du
monte pas dessus, il ne bouge pas.
Ouais, mais
et des fois, il broute un petit peu. Il y a une animation en broutage d'herbe.
J'adore.
Mais
c'est
tout. Voilà, on est libre. Il n'y a pas de saut d'obstacle et tout. Hein, mais
dommage. C'est qu'il doit y avoir des jeux pour jouer à des trucs de chevaux. Hein.
Mais je oui, il y a les jeux d'Alexandre
Legerman. Je de détourner des jeux qui n'ont rien à foutre avec les chevaux.
Parce que l'autre jour, j'ai cherché un cadeau d'anniversaire pour ma sœur et je me disais quel jeu je pourrais lui prendre, tu vois. Et j'ai regardé une vidéo YouTube. D'une meuf qui recommandait les meilleurs jeux d'équitation et elle a dit en fait tout jeu dans lesquels il y a des chevaux peut se transformer en jeu de cheval.
Alors celui-là c'est vraiment capillotracté, mais tu sais quoi, crois en tes rêves, tu peux juste, tu seras un connard sur un cheval qui se balade, c'est tout quoi. Et bon, tu mets du temps à avoir le cheval, mais tu peux. Donc tu dois t'occuper de ta ferme, faire des récoltes, etc., gagner de l'argent comme ça. T'as une petite ville avec, je dirais, une vingtaine d'habitants, dont certains sont célibataires, certains et certaines, puisque le jeu est vraiment free. Et tu leur parles, donc tu construis des amitiés avec eux. Tous les jours, tu leur parles, tu leur fais des petits cadeaux, un peu comme dans Animal Crossing.
Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont avec faire des cadeaux aux gens dans ces jeux? C'est hyper
écoute,
bizarre.
T'en parleras à mon mec, il déteste, il arrête pas d'insulter les habitants, il a parlé à personne, ils sont pas les couilles, vraiment. Donc chacun sa mécanique préférée du jeu. Mon mec, c'est faire de la moula. Moi, c'est être pote avec tout le monde, parce que ce qui est cool, c'est que quand t'es pote avec les gens, donc tu débloques des niveaux d'amitié et à chaque fois t'as une petite cinématique qui t'en apprend plus sur la personne et c'est des jolies histoires et tout, bref. Et t'as aussi une dynamique un tout petit peu combat, puisqu'il y a des mines avec des petits monstres où tu peux récolter du minerai et tu peux pêcher. Voilà, c'est Stardew Valley. C'est un jeu infini dans le sens où il y a vraiment pas
de but.
T'as des quêtes, mais il y a pas de but. Le but, c'est d'avoir la plus jolie ferme, d'être content. Ou alors, si tu t'en fous de l'aspect ferme, tu passes ta vie à pêcher, t'es le meilleur pêcheur. Ou alors, tu vas
c'est
la
vraiment
mine,
enfin, Animal bref. Crossing 2. Hein.
Non, parce qu'Animal Crossing, au cœur du truc, c'est un jeu de décoration. Le but, d'accord, c'est de décorer. Stardew Valley, c'est un jeu de gestion. C'est vraiment gérer ta thune, gérer tes ressources. Et il y a les saisons qui passent. Donc, à chaque saison, c'est récolte, c'est poissons différents et tout. Et chaque jour dans le jeu dure à peu près 10 minutes. Donc, et tu dois aller te coucher à la fin de la journée, sinon tu perds de l'énergie. Donc, tu as aussi un truc de gestion du temps. Et c'est addictif du cul. En plus, il coûte pas très cher. Maintenant, il est dispo sur PC, Mac, Switch, téléphone, tout ce que vous voulez. Et il coûte un truc genre entre 10 et 20 balles selon les plateformes. Donc déjà, de base, Stardew Valley, c'est ma passion. J'avais découvert ça quand je venais d'arriver à Paris, donc il y a 3-4 ans. Sachant que moi, mon ordi de travail et aussi mon ordi dans la vie, c'est un MacBook Air. Donc c'est un ordi pas très puissant pour ce qui est gaming. Je peux pas jouer aux jeux auxquels j'ai envie de jouer, aux AAA et tout. Je cherchais un petit jeu indé mignon. Je suis tombée là-dessus et je suis tombée dans un vortex, mon gars. Je crois que j'ai vraiment beaucoup d'heures de jeu dessus.
Ah ouais.
Plus que 100, clairement.
Plus que 100. 200.
Ouais, j'ai vraiment poncé, mais ça rend fou. C'est vraiment le truc où t'es là en mode, ok, donc aujourd'hui j'ai fait ça, enfin aujourd'hui dans le jeu j'ai fait ça, donc demain il faudra plutôt que je fasse ça. Donc la partie finie, et en fait dès qu'une journée finit, ça sauvegarde. Donc en gros, tu peux sauvegarder une fois par jour.
D'accord.
Et t'as toujours l'envie de faire la journée d'après. Tu vois, t'es toujours en mode, bon, je fais juste une petite journée, bah, sinon je vais oublier qu'il faut que j'aille améliorer ma hache au forgeron et qu'il faut que je pêche le poisson légendaire qui disparaît en hiver. Et du coup, ça rend ma boule. Vraiment, la nuit n'existe plus. C'est un trou noir. Donc, Stardew Valley, c'est ma passion. Je l'ai énormément poncé parce qu'en plus, je venais d'arriver à Paris. J'avais pas encore trop de potes sur place. J'avais pas beaucoup de thunes. Ça m'a fait mon hiver. Mais alors là, tranquille, je suis restée chez moi. J'étais très contente. Et au bout d'un moment, j'ai un peu lâché parce que je suis pas, enfin, il y a quand même un niveau où le jeu devient un petit peu répétitif. De temps en temps, je le reprenais, je me faisais une nouvelle ferme, j'étais contente, je jouais, j'allais dire quelques heures, mais bon, on est quand même sur plusieurs jours cumulés, mais après j'arrêtais. Et là, et en fait, il y a eu plein de mises à jour de Stardew Valley qui sont toujours faites par le même gars, qui s'appelle donc Eric Baron, et qui apporte du nouveau contenu. Donc t'as des nouvelles zones qui se débloquent, t'as une sorcière dans un marais où tu peux avoir des trucs spéciaux. Là, maintenant, t'as un marché de nuit en hiver avec des gens qui vendent des objets qu'il n'y a pas dans le reste du jeu et tout. Donc ils continuent à alimenter le jeu pour justement éviter l'effet lassitude. Et là, il a sorti enfin la mise à jour 1.5. Et c'est ça mon kiff, c'est la mise à jour 1.5 de Stardew Valley. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a énormément de contenu dedans, il y a plein de nouvelles quêtes et tout, donc ça, c'est cool. Et surtout, il y a le mode multijoueur en local sur un écran partagé. Parce qu'avant, il y avait un mode multijoueur, mais où tu pouvais juste quelqu'un pouvait venir sur ta ferme et dans ta partie, mais ça, c'était, tu pouvais pas jouer sur le même écran à deux, quoi. Il fallait que chacun soit sur son écran. Et du coup, c'était un peu moins fun. Là, il y a le vrai mode multijoueur, c'est-à-dire que ta télé, elle est séparée en deux. Moi, je suis à gauche, mon mec, il est à droite. Et du coup, on s'est fait une ferme dans Stardew Valley et on passe notre vie dessus. Vraiment, tous les soirs et tous les week-ends de la vie depuis 3 semaines, vous pouvez être sûr que je suis en train de jouer à Stardew Valley avec mon mec, c'est chaud. Et du coup, comme on a deux styles de jeux différents, c'est trop marrant parce que moi, je suis vraiment, je vais parler à tout le monde, je fais des petits cadeaux et tout. Lui, il est là, je vais pêcher. Et il pêche toute la journée, vraiment, il fait que ça. Et après, il dit, on a eu plein d'argent. Je suis là, mais c'est pour faire quoi cet argent finalement? Est-ce que t'as, parce que
offrir lui, là, des cadeaux aux
moins...
autres?
Non, parce qu'il s'en fout. Lui, il connaît moins le jeu que moi, donc moi, je sais que, ok, bon, bah, si on veut. Parce que je suis zinzin, donc j'ai atteint le stade du jeu où j'ai un carnet papier, où j'écris combien coûtent les bâtiments et de quoi j'ai besoin, parce que sinon c'est chiant, donc vraiment.
Ouais.
Oui, pour moi les meilleurs jeux sont ceux qui t'obligent à noter des trucs sur du papier, parce que ça veut vraiment dire que t'es deep dans le gaming et que j'adore les jeux de gestion. J'ai écrit un article à ce sujet sur Mademoiselle. Oui, j'aime pas gérer des
j'adore
trucs dans ma vie.
J'adore les jeux de gestion, c'est incroyable.
Ah, non,
de
mais ça, il y a un truc d'optimisation qui chatouille mon cerveau pile là où j'aime bien, tu vois.
Comme les Sims.
Ouais, voilà, un peu. Ouais. C'est vraiment genre, tout est...
Attends, un parfait. Jeu de gestion, on est d'accord, c'est tu dois économiser de la thune pour l'acheter quelque part, quoi.
Oui.
D'accord, oui.
Enfin, ou alors
il y a
tu
beaucoup
dois
de jeux, il y a beaucoup de jeux qui consistent en ça.
Oui, oui, énormément.
Ta passion est...
Partagée.
Et, non, mais je veux dire, elle est... Tu l'as... comment on dit quand on a soif
Ah, assouvi.
Assouvi, merci.
Ah, ma passion est richement assouvi. Et encore, moi, je joue aux jeux de gestion facile. Il y a des jeux maboule où il faut construire des villes, donc c'est des bails d'urbanisme, genre SimCity.
J'adorais SimCity.
Il faut gérer les transports en commun, si l'électricité, la police, les hôpitaux, les habitants, ils sont jamais contents.
Thème
bref,
hospital.
C'est chiant. Thème hospital.
Mais tu veux être mère, en fait.
Pas du tout. Les enfants, ils sont tout le temps là chez toi, Kalindi. Stardew Valley, je l'éteins.
Mais
j'ai
non,
pas
mère,
mon poulain.
Mais M-A-I-R-E.
Ah, bah non, les habitants, ils sont là aussi, ils ont des opinions. Stardew Valley, c'est ma ferme, tu vois. Les gens, ils ont pas d'opinion dessus. Je fais ma vie, les habitants ils viennent pas chez moi et je fais ce que je veux.
Tu forges ta hache et personne te fait yèche, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc non, je ne veux pas être maire d'une ville parce que je pense que je n'ai pas les compétences clairement pour gérer les priorités d'une ville.
Moi je voterai pour toi.
Moi aussi je voterai pour toi.
Mais
franchement,
mais
il y en a, ils sont maires,
là,
ils ont pas les compétences.
Ils nous font maire là.
Mais alors je suis désolée, vous avez élu le même gars et on sait qui pendant je sais pas combien de temps. Je viens pas chez vous, vous êtes tous dans un. Et donc bref, c'est vraiment très cool cette nouvelle feature qui était très très attendue de pouvoir jouer en local sur un écran partagé à Stardew Valley. Et ce qui est encore plus cool, c'est que en soi, moi, c'est moi qui ai créé la partie, donc c'est ma ferme, c'est moi le joueur principal. Mais on peut y jouer séparément si on veut. Je pourrais rentrer ce soir et jouer toute seule à Stardew Valley pendant que mon mec fait autre chose. Il se trouve que et du coup ça avancerait la partie. Et lui, quand il revient, bah il en est à là où moi je me suis. Enfin, par exemple, si je joue 3 jours, je gagne 10 000 balles. Lui, il lance la partie, il aura les 10 000 balles en plus, puisque c'est de l'argent partagé. Mais il se trouve que j'ai demandé à mon mec, est-ce que je peux jouer sans toi? Il m'a dit non. Donc j'étais là, ok. Parce que pour lui, c'est notre ferme, il faut qu'on s'en occupe tous les deux. Donc je ne joue pas sans lui. Mais si je voulais, je pourrais. Et du coup, bah, c'est trop cool aussi parce que moi, je suis allée... Donc, Stardew Valley, c'est de ces jeux où, pour être efficace, il faut ouvrir le wiki et l'avoir sous le nez et pouvoir chercher, par exemple, t'as un personnage qui te dit « Oh, j'aimerais bien une perche pour mon dîner. » T'es là, ok. Donc, c'est où la perche? C'est à la rivière? C'est à quelle heure? C'est en quelle saison? Tu checks ça sur le wiki et là, tu vas te donner les meilleures chances d'attraper une perche. Parce que parfois, il y a des trucs très, très rares qui arrivent très rarement dans le jeu, donc il vaut mieux pas les rater.
Mais qu'est-ce que tu lui dois à ce gars qui veut une perche?
Tu lui dois rien, mais si tu lui donnes, ça te fait des points d'amitié et il te donne des sous. Mais d'accord. Si tu lui donnes pas, il se passe rien. Ça, c'est bien aussi. C'est pas du tout punitif comme jeu. Il y a pas de fin, il y a pas de but. Tu peux pas rater Stardew Valley, quoi. Au pire, même si tu passes 2 ans du jeu à gagner 5 pièces d'or et à juste pêcher et à pas vendre tes poissons parce que t'es con, bah, t'as le droit. Ça va rien casser. C'est juste que t'auras pas avancé et que il se passera pas grand chose. Mais
tu meurs pas de faim.
Tu meurs pas de faim. Bah, faut aller se coucher le soir, quoi. Si tu vas pas, en fait, t'as une jauge d'énergie qui se vide quand tu fais des actions, genre couper des arbres, pêcher et tout. Si t'arrives à zéro, là, tu t'évanouis et tu payes des sous à la clinique qui te ramène chez toi. Mmh. Et si tu ne rentres pas chez toi à temps pour te coucher à maximum 2h du matin, tu t'évanouis et le lendemain, t'as moins d'énergie. Mais ça se reboucle le jour d'après. Enfin, c'est vraiment... C'est chillax comme jeu, quoi. C'est pas fait pour... Alors, paradoxalement, c'est pas fait pour te stresser. Mais en vrai, quand on joue, on est hyper déter parce qu'il y a 10 minutes pour faire tout... Il y a 10 minutes dans la journée. Et on a un programme, on a des trucs à faire, donc je suis là, ok,
oh là là,
moi aujourd'hui je vais aller améliorer ma hache, donc ça va prendre 2 jours, donc pendant 2 jours je pourrais pas couper du bois. Donc toi, est-ce que tu peux aller couper du bois demain? Moi aujourd'hui j'améliore ma hache et du coup je vais pêcher. Est-ce que tu peux t'occuper des poulets, comme ça t'auras des points en farming d'animaux? Et je pense que je vais
il
aller
faire
à la
des rétro-planning en fait.
Un peu. Et ça rend ma boule, mais c'est tellement satisfaisant.
Moi je suis incapable de faire ça.
On en est au point, c'est arrivé pas souvent, mais c'est arrivé 2 fois. que je mette un timer sur mon téléphone pour être sûr qu'on arrête à temps, surtout quand genre, c'est en semaine et je suis là, ok, il faut qu'à minuit on soit au lit, tu vois, on peut pas, c'est parce que sinon le vortex, je le connais. Et j'ai fait des journées de taf en me mettant couché à 4h du matin à cause de Star du Valais. C'est pas un plaisir, voilà. Et du coup, j'ai déjà mis un timer pour être sûr que quand il sonne, on finit la journée et on arrête parce que sinon le, on se fait aspirer.
Je peux me permettre de poser une question sur ces 10 minutes, j'ai
pas compris. Oui, Kalindi Ramphol, vous pouvez, oui. Oui, oui,
oui. J'ai pas compris le truc des 10 minutes, pourquoi vous avez que 10 minutes
par jour ? En fait, chaque journée du jeu dure 10 minutes. Et à la fin de la journée, il faut que tu ailles te coucher. Donc tu peux pas dire je vais faire toutes les actions que je veux sans fin, quoi. Il faut qu'à un moment, tu sois de retour à ta ferme, dans ton lit, à 2h du matin, sinon tu t'évanouis.
Ok, d'accord.
Et du coup. Autant, en, ça dépend des saisons. En hiver, par exemple, il n'y a rien qui pousse en termes de plantes. Donc, t'as pas à te faire chier à arroser tes plantes, à récolter tes trucs. T'es un peu plus tranquille. Mais une journée d'été, donc en 10 minutes, il faut que t'arroses toutes tes cultures, que tu récoltes ce qui a poussé, que t'ailles voir tes animaux s'il y en a pour récolter leurs œufs, leur lait, leur faire des petits bisous. Que éventuellement, t'ailles couper. Enfin, après, t'as récolté des ressources. Donc, disons, tu veux un meilleur poulailler, il faut du bois et des pierres. Bah, il faut que t'ailles en couper ou en récolter si t'en as pas. Si t'es comme moi, tu fais un petit tour pour dire bonjour à tout le monde dans la ville, comme ça tu gagnes des points d'amitié, comme une vicose. Tu peux aller pêcher, tu peux aller à la mine, t'as des fois des quêtes, genre voilà, Michel il veut une perche, t'as que 2 jours pour lui donner, bon bah si tu veux réussir la quête, il faut aller pêcher. Et ça passe vite 10 minutes du coup avec tout ça à faire.
Ouais, tu te fais combien de journées quand tu joues généralement ?
Bah 10 minutes, c'est rare qu'on joue moins de 2 heures.
Ah ouais, un an ?
Bah 12 journées.
Pas mal.
Sachant qu'une saison, c'est 28 jours dans Stardew Valley.
J'étais là un an.
Donc en 2 sessions de jeu à peu près, on change de saison.
Ouais, ok.
Un an.
La meuf la moins forte en maths.
365 fois 10 minutes.
Non, mais l'autre jour, avec ma coloc, on était avec ma coloc et son mec. Et on a vu un tweet, c'était « Putain, le gars qui gagne 200 millions à l'euro million, s'il donnait 1 million à chaque Français, et bah, il aura encore de la thune. » Et on était là « Bah ouais, putain, c'est ouf quand même et tout. » Et ouais. Le mec de ma coloc, il a fait « Mais non, ça marche pas. » Et on fait « Si, si, ça marche, en fait !» Et on l'a convaincu que ça marche. Ça marche pas du tout.
60 millions.
Mais c'est dur comme exercice de maths dans ta tête. Oui. En fait, ça te fait un peu comme ça. Et après, après, une fois que j'avais compris, ma coloc, elle comprenait toujours pas. Du coup, on a dit « Vas-y, on enlève les millions. » Mais du coup, ça marchait parce qu'on a enlevé les 65 millions de personnes. Bon, bref.
Avec mon ex, parfois, il m'interrogeait sur les tables de multiplication, mais après...
Est-ce que c'est pour ça que c'est ton ex?
Non, mais quand la on était un peu sous, on avait 2 activités. La première, c'était découper des phrases difficiles à dire, comme les chaussettes de l'archiduchesse. Voilà, super, j'en ai besoin. Ça fait longtemps que j'ai quitté. Et on découpait les petites bandelettes. Et dès qu'on était un peu sous, on se faisait réciter les phrases. Donc, on faisait ça. Et l'exercice des tables de multiplication. Donc, franchement, on a passé de ces soirées, mais extraordinaires.
Bah, si vous aviez eu Star du Valais, ça aurait peut-être été extraordinaire différemment.
D'une autre manière, ouais.
Une belle histoire.
Mais 7 x 7
49, putain.
J'ai dit après 10, putain. Et oui, tout le but, c'est de faire les poser dans ta tête. Et je me suis rendu compte à quel point j'étais mauvaise du cul, quoi.
Ah ouais.
J'ai une anecdote, rien à voir avec Star du Valais. On va dire que mon kiff est fini, sauf si vous avez plus de questions. J'ai une anecdote là-dessus parce que j'ai une cousine qui a 20 ans, que j'embrasse même si elle écoute pas ce podcast. Et elle est en train de passer à un truc qui s'appelle le Taj Maj, qui apparemment est un gros concours c'est un gros concours de culture générale, mais hyper diversifié, parce qu'elle veut faire des études cool et tout. Et elle m'en avait parlé, elle m'avait dit, putain, je galère et tout. Autant les trucs d'anglais, genre le TOEFL et le TOEIC, ça allait, mais là, le Taj Maj, c'est hyper dur. Et donc, je lui ai dit, bah, il y a peut-être des trucs sur lesquels je peux t'aider. Clairement, la logique et les maths, non. Mais il y a plein de trucs d'expression française, d'orthographe, de compréhension
de texte
et tout.
Dicodeur 2002.
Oui, je suis Dicodeur, tout à fait. Alors, je lui ai dit, l'orthographe en soi, je peux pas t'aider de ouf. Si tu l'as pas, tu l'as pas. C'est pas très grave, mais tous les trucs de compréhension de texte, je peux t'aider. Et donc, on a fait cette semaine une soirée de 2 heures de Taj Maj ensemble. Et je me suis rétamé la gueule. C'est ultra dur.
C'est dur.
Il y avait vraiment, c'est des trucs genre des phrases où il y a des mots qu'il faut. Enfin, il y a une phrase et il y a 2 mots dans la phrase qui sont mis en avant. Et ensuite, t'as 4 propositions avec à chaque fois 1 synonyme de chaque mot. Et il faut trouver celle où les mots sont le plus proches de la phrase de base. Génial. Mais c'est que des trucs genre tu vas avoir un mot, ça dit dépensier. Et les synonymes, c'est genre gaspilleur, dilapideur, panier percé. J'étais là, mais ça veut tout dire la même chose en fait. Tout s'y marche, tu vois.
Moi, j'aime trop
et
les
c'est des bails
nuances.
De ce n'est pas le bon niveau de langage assez soutenu. Donc vous voyez
j'adore.
Que dépensier, c'est plutôt commun
bien.
Et tout. Et je suis là. Vraiment, des fois, j'étais là, bah, je dis la B, mais pour dire la B, tu vois, je ne sais pas, je n'ai pas. La logique ne fonctionne plus. Et elle est là, bah non, c'est la E. Et je fais, bah super, c'était la E, qu'est-ce que je te dis ?
Mais toi, tu vois, t'aimes bien la gestion. Moi, j'aime bien ça, j'aime bien le.
Mais je pensais que j'aimerais bien parce que je serais un peu forte. Et en fait, j'ai galéré ma race, mais c'était quand même rigolo. Effectivement, l'exercice est marrant. Et comme moi, j'ai pas d'enjeu du tout, ça va, tu vois, que je passe quelques soirs à l'aider à réviser. Et là, on a mis 2 heures pour faire un truc du Taj Mahal. En vrai, elle a 40 minutes, un truc comme ça. Mais genre moins d'une minute par question.
Il n'y a rien de plus désagréable que de croire qu'on est fort en quelque chose et se rendre compte qu'on est mauvais. Je vous ai raconté le ski nautique.
Le quoi ?
Le ski nautique. Quand j'étais petite.
Alors attends. Donc, on est sur un postulat où tu étais persuadée d'être forte en ski nautique.
Non, non,
mais aucune raison.
Ski nautique, non. Okay. Alors, quand j'étais petite, j'étais forte en ski nautique. Donc, mon père, qui a travaillé pendant très très longtemps au Club Med et faisait des acrobaties à plusieurs en ski nautique avec ses amis, m'avait appris à faire du ski nautique quand j'étais petite. Et j'en ai pas fait pendant quelques années. Et un jour, j'étais avec ma mère dans ce qu'on appelait une rotation, c'est-à-dire une escale avec des gens qui travaillent dans les avions. Enfin, vous avez compris?
Les hôtesses de l'air, tout
voilà.
Ça.
Oui. Vous avez compris? Hop, donc on arrive.
Elle est tellement belle.
Vous avez compris les propos là? On arrive à l'île Maurice et moi je dis ouais, alors attendez, moi je vais vous montrer comment on fait du ski nautique parce que moi j'en fais super bien, top. Et donc on arrive tous au ponton. Je dis bah j'y vais en premier du coup pour vous montrer quoi.
La pire personne. J'imagine vraiment toi mais avec 40 cm de moins et la même assurance quoi.
Exactement. Et puis je suis jamais sortie de l'eau quoi. Jamais. Je n'ai jamais
réussi. Tu t'es juste fait traîner par un
bateau. Mais oui, mais traîner. Et après j'ai dit ouais, mais les chaussures étaient pas à ma taille. J'ai été de mauvaise foi, mais genre hallucinante. Et vraiment tous les gens qui ont essayé sont sortis de l'eau du premier coup. Donc c'est la honte de ma vie. Et je me suis dit plus jamais qu'elle dit ça te servira de leçon. Tu ne te la pèteras pour quelque chose que tu ne maîtrises pas vraiment ou que tu n'as pas fait depuis longtemps. Voilà, très belle leçon. Apprenez de mes erreurs.
Tout à fait. Non mais c'est vrai. D'abord surprendre tout le monde en étant hyper forte. Et après tu fais bah ouais, mon père il m'a appris quand j'étais petite. Ah, tu l'avais pas dit.
Exactement.
Et là ça va.
Eh, de ouf.
Mais parce que aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant a les compétences athlétiques d'un athlète de haut niveau. Donc en fait,
c'est
ce que tu
fais. C'est pour ça que
ça
court partout.
Mais oui, ce que tu fais en fait quand t'es enfant, c'est que t'es tellement en forme. Et après, genre ton corps il change et tout. Il y a plein de trucs que tu fais quand t'es enfant que tu sais plus refaire une fois que t'es adulte si tu l'as pas.
Comme le pont.
J'ai vraiment l'impression que genre même à 7 ans, je savais pas faire la roue, tu vois. Donc je suis là. Je suis pas sûre de cette théorie. Ou alors un athlète de haut niveau, mais peut-être. J'étais forte en curling, mais je le savais pas. Tu vois.
Mais oui, c'est ça. Peut-être qu'enfant, t'étais forte en capoeira.
Non, je le sais, non, j'étais nulle en capoeira.
Mais moi, quand j'étais petite, j'étais hyper souple. Genre, j'arrivais à mettre mes jambes derrière ma tête et tout. Genre, comme ça.
Comme un bretzel.
Ouais, exactement. J'étais un bretzel. Et bah, maintenant, je suis incapable de lever la jambe, en fait. C'est ridicule.
Non, quoi. Mais oui, c'est clair. Non, mais bien sûr. Mais là, on n'était pas passé de 8 ans à 75, quoi. C'était vraiment.
Mais là, tu
es chaud.
Je n'ai pas 75 ans, putain. J'ai juste pas beaucoup dormi cette nuit, c'est tout.
Mais là, il y avait genre 2 ans d'écart, tu vois. Donc.
Ah ouais, non, c'est.
Non, mais là, je me. Ouais, non, mais là, mais ça m'a fait du bien à l'ego. Hein.
Ah oui, du coup, c'est la
ça
honte,
m'a bien
ouais.
Calmé, quoi.
Ouais,
mais alors, dis-moi, avant qu'on passe peut-être au kit de Manon, j'ai une question que je m'étais jamais posée dans la vie. C'est quoi les étapes du ski nautique de je suis sur des skis dans l'eau à je sors de l'eau?
Alors, en fait, le truc, c'est qu'au début, pour les débutants, ils mettent juste une barre. En fait, avant que t'aies une grande corde, déjà, t'as plusieurs longueurs de corde au ski nautique. Et en fait, la toute première étape pour t'apprendre à skier, c'est une barre métallique qui est fixée au bateau. Donc, en fait, tu sors quasiment, enfin, t'es obligé de sortir. Parce que t'as pas de, enfin, ce qui est compliqué dans le ski nautique, c'est la corde à gérer. Parce qu'en fait, les gens ont tendance à tirer dessus. Sauf qu'en fait, tirer dessus, ça fait faire du mou à la corde. Et là, tu te casses la gueule et t'arrives pas à sortir de la flotte. Voilà. Et en fait, la barre, ça t'apprend justement à doser correctement. C'était ça, sa question?
Oui, oui.
Et du coup, après, tu passes à la petite corde, la moyenne corde et la longue corde. Et après, tu passes à des acrobaties. Tu fais à 3, 4.
Non, ok, c'était pas ça ma question. Comment tu fais pour sortir de l'eau? C'est ça ma question.
Ah, bah en fait, le bateau.
T'es dans l'eau, le bateau démarre. Ouais. Qu'est-ce que ton corps est censé faire pour que tu sois plus dans l'eau?
Et ben en fait, pas grand chose. Et c'est ça qu'ont très bien compris mes camarades.
Parce qu'ils n'essayaient pas d'en faire trop pour épater la galerie.
Exactement. En fait, le truc, c'est que si tes skis sont bien positionnés et que t'as un bon moniteur, qui te les met bien en parallèle, etc., et que t'es bien assis le cul dans l'eau, que t'es bien que t'es une bonne position de départ, et que tu tires pas sur tes bras comme un bolos, normalement, tu sors pas trop difficilement, quoi.
Ok.
C'est pas si compliqué que ça en vrai, ski nautique. Aujourd'hui, j'en fais bien, tu vois. Mais
Attention.
J'en fais mieux que quand j'avais 12 ans, parce que j'en ai refait depuis avec des
pas
adultes.
Pas aussi bien que quand j'avais 10 ans, mais pas mieux qu'à 12.
Et vraiment, j'ai très honte. Hein. J'ai vraiment honte. Je porte la honte encore aujourd'hui, donc.
Je pense qu'il faut exorciser cette honte.
Ça fait du bien d'en parler.
Ça fait du bien.
Franchement,
ça fait du bien
de la raconter sur un truc qu'on sait pas vraiment faire, c'est classique, tu vois. Ça fait partie de la vie.
Ouais, c'est vrai.
C'est pas grave, Kalindi. On te pardonne tous ici.
Merci. Merci beaucoup.
Bien, merci Mimi pour ce kiff de sur rien. Lequel nous avons bel et bien digressé.
Ah, bel et bien, ouais, parce que le ski nautique, je l'avais pas vu. Mais jouer à Stardew Valley, c'est très bien. Et ça peut être apaisant, faut juste pas être un petit peu zinzou comme moi, quoi.
Voilà. À toi, Manon, quel est ton kiff ?
Mon kiff en ce moment, c'est de voyager alors que je peux pas, en fait.
Ouais.
Ce qui est super. Non, c'est mon remède anti-dep, en fait. Je devais déménager en Écosse à Édimbourg là en septembre.
Ah
et
bon
ouais, on devait partir vivre là-bas.
Ah oui, le Covid a complètement explosé le projet de vie de Manon.
Niqué complètement.
Je serais
la vérité. Voilà. On devait partir donc et Covid, Brexit, etc. Ça a foutu tout le plan en l'air. Et du coup, j'aimerais bien y retourner. Là, en fait, ça me manque. C'est vraiment viscéral. Quoi. C'était pas genre un déménagement parce que j'aime bien le pays, j'ai envie
non,
de...
Non, t'es écossaise de cœur.
Je suis écossaise de cœur. Et en fait, attention, je suis un peu aussi écossaise génétiquement. J'ai fait un truc.
Ah
ouais.
Donc mon introduction n'était pas fausse.
J'ai fait un test ADN. En fait, ouais. Je suis écossaise, mais pas vraiment... Enfin, si, dans mes gènes, mais je sais pas si ça compte, du coup. Parce que, pour l'histoire, je ne connais pas mon père biologique. Et du coup, j'ai voulu faire un test ADN pour connaître un peu, voilà, une partie de mes origines... qui sont complètement inconnus, pardon. Et du coup, j'ai appris que j'avais 47% d'origine écossaise.
Ah, mais c'est énorme.
Génial. C'est la moitié, quoi.
Bah ouais, presque moitié française, moitié écossaise, en fait.
Ah, mais c'est pour
j'ai
ça.
Un peu de Pays Basque aussi, mais je sais pas si ça en rappelle. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que j'avais déjà cette passion pour l'Écosse avant de faire ce test. Je savais pas d'où ça venait.
L'intuition.
Mais à chaque fois que j'y allais, parce que j'y allais plusieurs fois, j'ai l'impression de rentrer chez moi. C'était trop bizarre. Genre, j'arrivais à l'aéroport, je me baladais, tu vois, genre à Édimbourg, par exemple, j'avais l'impression de rentrer à la maison. Mais genre, même première fois que je suis allée. Donc j'ai fait ce test pour déconner, qui a donné ses résultats, c'est marrant. Et pour en revenir à mon expatriation, finalement ça c'est pas fait. Et du coup, mon petit kiff pour arrêter de déprimer, de me dire, ah putain, je suis peut-être passée à côté d'un truc là, en fait, c'est pas super. Et ben je me fais tous des plans de voyage, en fait. Je vais sur Air France, Eurostar, machin, je fais tout un itinéraire, donc en train, en avion, machin. Je book tout, enfin je fous tout dans le panier, j'achète pas forcément.
Je fais la même chose, sinon c'est vraiment loisir.
Ouais,
très
non, ouais, sinon c'est vraiment très très dev.
T'as un kiff de riche.
C'est ça. Que je ne suis pas. Et après, je regarde les Airbnb dans les quartiers, genre je vois ce que je pourrais visiter dans telle ville que je connais pas, ou aller dans la Islande, des trucs, qu'est-ce que je pourrais voir, tout ça. Je me book tout un programme, je me fais tout un budget qui ne sert à rien parce que ça ne se fait pas, mais ça me fait kiffer, en fait. Je regarde sur Google Maps, en Street View, où est-ce que je pourrais aller, les trucs à voir. Et je fais aussi ça, du coup, pour élargir un peu les horizons. Je pars aussi en Suède, en Norvège, tous les pays que j'ai envie de visiter.
C'est trop bien.
Dans lesquels je peux pas aller en ce moment, alors que j'aimerais trop les visiter. J'ai vraiment la bougeotte, je voyage beaucoup, et là, d'être cloué un peu, ça me... Ah, donc je fais ça et ça me rompt le moral. Voilà.
T'aimes bien planifier tes vacances et tout genre...
Bah, pas spécialement en plus, en vrai. Généralement, je pars souvent sur un coup de tête, genre ouais, d'un mois sur l'autre ou de deux semaines sur l'autre quand c'est des trucs pas trop loin.
Oui, alors c'est pas de la planification, du coup, c'est vraiment de la projection.
Ouais, c'est ça. C'est de la planification pour savoir quand même où on va pioncer, mais en vrai, non, c'est plus...
Oui, t'es pas la meuf qui kiffe faire un guide de voyage
non.
Avec des étapes par jour.
Non, du tout. Non, on y va et puis on va au feeling, quoi. C'est plus quoi. Donc voilà, ça me remonte un petit peu le moral.
Et tu fais ça sur quoi ? Et moi, je faisais sur des PowerPoint. Tu fais ça sur...
Attends, on va pas passer là-dessus. T'avais des PowerPoint de potentiel voyage avec les prix des Airbnb et tout ?
Oui, non, mais moi je les faisais parce que en fait c'était quand j'étais en Inde et j'étais en fait j'ai fait un échange universitaire en Inde et on était une quarantaine de Français et en fait personne se bougeait le cul pour organiser les voyages. Donc moi je prenais la liberté d'organiser comme je voulais et en plus c'était bien parce que après je faisais exactement tout ce que je voulais.
Smart.
Et les autres me suivaient.
Bien ouais.
Donc c'était cool et moi j'aimais trop faire ça genre parce que comme j'allais proposer aux autres de voyager avec moi parce que j'essayais de recruter des gens et tout pour qu'on parte à plusieurs. Et ben je faisais ça sur des PowerPoint avec le prix du bus, le prix du machin, le prix du Airbnb, les photos machin.
Quel enfer.
Moi j'adore, j'ai une passion pour le PowerPoint. Que je déteste faire quand c'est du travail. Mais par contre,
je me disais, je vais peut-être pouvoir te déléguer mes presse que je fais jamais.
Mais en fait, ça va, mais il faut vraiment que je sois deep dedans, tu vois. C'est comme.
T'as un mode PowerPoint.
J'ai un mode PowerPoint activé, et d'un coup, si je suis bien dedans, si ma présentation me plaît à peu près et tout, je suis capable de genre y aller, je fais des transitions et tout. Voilà. Donc. C'est ma passion, surtout que ces PowerPoint n'ont servi à rien, puisque en Inde, ça sert à rien de prévoir quoi que ce soit, parce que ouais, rien ne se passe comme prévu. Donc finalement, ça n'a servi à rien du tout. Mais j'ai kiffé quand même. Je kiffe quand même ce petit truc de projection, tu vois, où
tu t'imagines, ouais.
Ouais, tu t'imagines ouais. De ouf là-bas et tout. Tu te dis, oh putain, ça va être trop beau. Même si tu le fais pas forcément. Enfin, je suis pas une meuf rigide, tu vois. Je vais pas dire, bah aujourd'hui on fait ça et ce sera pas demain et tout. Moi, on arrive sur place, je suis là, bon, on fait ce qu'on veut, tu vois. J'ai vu ça, ça a l'air cool, mais on n'est pas obligé de tout faire. Mais moi, je comprends grave ce truc projection,
envie de partir. Et bah moi, je me note tout sur des petits cahiers, en fait. J'ai un cahier pour chaque
destination. Est-ce que tu gardes tout ça pour la prochaine fois qu'on peut voyager et que du coup, t'as quand même fait tout le taf de trouver le bon Airbnb à Stockholm avec le musée pas trop loin. Autant garder tout ça.
En fait, je note tout. En fait, j'ai un cahier pour chaque voyage que j'ai fait. Ou pareil, je notais voilà les endroits où je voulais aller, les trucs à visiter, un peu des penses bêtes en fait. Et après, pendant le voyage, je remplis ces cahiers avec, je sais pas moi, les tickets de métro de là où on va, toi, les tickets de musée, des trucs à voir. Et en fait, ça fait des souvenirs. C'est des petits cahiers, des petits Moleskine, tu vois. Mais je les garde. Et là, bah, pour les prochains, ils sont déjà faits, en fait, avec mes projections. Donc j'aimerais bien les remplir maintenant, en fait. Ça serait cool.
Ouais.
Ça serait bien.
Attends, mais moi, ça me déprimerait de faire ça. Je me dirais, putain, je peux pas vraiment le faire. Là, déjà, j'ai vu que tout le monde se casse.
Ouais, tout le monde se casse.
Alors,
j'ai
vu, ouais.
J'ai pas compris, en fait. Je comprends pas. On n'a pas le droit de faire les courses après 18h. Par contre, on a le droit de partir en Guadeloupe.
J'ai une de mes meilleures amies qui est partie à La Réunion avant, il y a 3 jours, elle m'écrit « Salut la gosse !» Bah, c'est Florence Chartier, vous la connaissez bien dans ce podcast.
L'anonymat est mort dans ce podcast.
« Salut la gosse, je suis à La Réunion, bisous !» J'étais là « Bon, bah top !» Et voilà, il y a Queen Camille, vous savez, qui est au Brésil.
Mais j'ai vu,
donc les gens vont au Brésil sans moi. Le Brésil, c'est mon pays, donc calmez-vous.
On sait que tu as parcouru les favelas, bien sûr, on se rappelle, à Rio, oui.
Voilà, donc je suis très déçue qu'on ne m'invite pas.
En même temps, t'as un travail, enfin, je sais pas si... Enfin...
Oui, non, mais j'aurais pris des vacances, tu vois, enfin, je sais pas.
C'est un détail,
on est en télétravail. Qu'est-ce qui m'empêche de télétravailler à
Télétravailler à Paris ou à Rio, franchement, quelle différence.
Bah ouais, franchement.
Bah laisse-moi kiffer, ça te garde un petit peu en France.
Ouais.
Bon, j'avoue, quand ambiance. On est contre Rio, c'est peut-être pas dingue.
On pourrait faire un épisode de Laisse-moi kiffer à Rio.
Si l'office de tourisme du Brésil, un jour, veut nous financer le voyage, quoi.
Putain, mais ce serait dingue.
Il y a littéralement aucune raison qu'on fasse ça. Oui, c'est
aucune. Juste pour être bronzé en revenant.
Ah là là.
Ce qui est très bien pour un podcast. C'est vraiment pratique d'être bronzé.
C'était toi qui avais proposé un jour qu'on fasse une tournée des Laisse-moi kiffer.
Ça, ce serait trop bien.
Ouais, ce serait trop bien.
Mais attendez, mais les grosses têtes, ils le font tout le temps. Ils sont à Rouen, ils sont à Lille. Attendez, c'est génial.
Non, on va rencontrer l'électrice et on fait des Laisse-moi kiffer en live.
Non, en fait, je comprends pas, tu vois, les écoles, là, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont... Nous, on enseigne aux jeunes, là. Via nos kiffs, on enseigne aux jeunes.
C'est vrai.
Et du coup, voilà, les universités de Pau, voilà, pourraient nous inviter. On serait dans un doge de Chartres. Dans un beau lycée, on ferait ça en live avec plein de jeunes. Je comprends pas comment
avec
ça s'est pas fait.
Plein de jeunes, vraiment, ma daronne.
Avec des
jeunes en ville.
Parfois, j'ai l'impression que t'es plus vieille que moi, c'est chaud.
Mais sans doute. Heureusement que j'ai le physique d'un mannequin de 18 ans, sinon ce serait embêtant.
C'est vrai. Pour en revenir à ton kiff, j'aime bien l'idée des petits cahiers. Je vais peut-être te la piquer parce que je fais partie de cette personne à qui on offre des carnets parce que j'écris, mais en fait j'ai un ordinateur, vraiment arrêtez de m'offrir des carnets. On n'en veut pas. Et plus les trucs qu'on reçoit, parfois on envoie presse et tout. Donc j'ai comme tout le monde, j'ai 4 carnets entamés, mais pas comme tout le monde, on m'en offre en plus régulièrement des 9, même si je fais de la pédagogie auprès de mes proches et aussi, voilà, dans LMK, arrêtez d'offrir des cahiers aux gens qui écrivent, ils n'ont veulent pas forcément. Mais du coup, je me dis que je peux recycler tous mes cahiers où j'ai écrit 3 phrases. Alors, je vous avais parlé de mon planeur dans Laisse-moi kiffer.
Ah oui, alors,
des nouvelles du planeur. Oh my god.
C'est dead, putain.
C'était sûr.
Quand on l'a fait le jour, le dernier truc que j'avais écrit, c'est genre en octobre. J'étais là, oh non. Mais à ma décharge, bah, j'ai pas grand chose à planifier dans ma vie. En fait, on est confiné.
En ce moment, il y a rien.
À 18h. Bon, je vais pas écrire dans mon planeur, jouer à Stardew Valley mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu vois, ça ne sert à rien. Donc bon, un jour peut-être. Mais je vais peut-être te piquer l'idée des carnets où j'écris le plan du voyage et après je le remplis avec les trucs.
Franchement, c'est cool, ça fait des beaux souvenirs.
Tu vas faire ça? Ouais. T'écris pas, mais tu vas faire ça. Putain, je suis
impressionnée. Alors, pour le coup.
Mais les voyages, c'est pas tous les jours, quoi.
Pour les trucs, pour les planifications, j'aime bien avoir une trace écrite à la main parce que juste c'est chiant des fois de sortir son tel et tout. Enfin. Tu vois, ça me saoule de trouver le bon Google Doc. Attends, on avait dit quoi? On est mardi et tout. Au moins, sur un cahier, t'as tout visible. Et il y a le côté mignon de pouvoir coller. J'avais fait ça comme cadeau pour ma sœur. On avait été au Japon ensemble. Et à Noël, je lui avais offert un carnet de tout ce que j'avais récupéré. J'avais mis de côté pendant notre voyage.
C'est trop bien.
Des petites cartes de visite, des emballages de boissons, des trop machins mimes. Comme ça. Et voilà.
Donc mais franchement, ça fait des vrais souvenirs de se faire des petits cahiers comme ça quand tu voyages, parce que c'est tellement une expérience à part et un moment dont tu veux te souvenir, tu vois, que d'avoir juste des billets d'avion sur ton téléphone ou des trucs, tu sais, tout dématérialisé. Je trouve que ça fait vraiment perdre du charme du voyage, tu vois, et de le noter dans un cahier, de l'avoir avec toi et de le garder pour plus tard. Et même si tu le regardes pas, on s'en fout, tu vois, mais ça te fait un souvenir, ça te fait un truc, c'est comme imprimer tes photos, quoi. Je trouve ça hyper important, en fait, d'avoir une trace écrite. Ouais, pour sortir un peu des téléphones.
Bah, pour le coup, le jour où Instagram ferme, si tu veux, il y a beaucoup quand même de mes photos de voyage qui n'existent plus. Quoi.
C'est clair. Ah,
c'est clair. C'est clair.
Mais tu sais que moi, j'ai retrouvé il y a quelques temps, mais je crois que j'en avais déjà parlé dans Laisse-moi kiffer, un carnet de voyage de quand j'étais en Inde. C'est le seul que j'ai tenu de toute ma putain de vie. Et vraiment, ce qui était extraordinaire, c'est que dedans, je me suis dit, putain, je vais raconter comment on a galéré là dans ce train, mais comment c'était beau, on a rencontré machin, mais quelle expérience. Et c'est vraiment moi qui dis, putain, je suis trop contente, j'ai trouvé une petite boutique où il y a des fringues à sauce tombées du camion. Genre, Kaline dit la vie la vraie. Et je suis là, putain, je dégoûte, j'ai vraiment écrit juste ça.
J'aimerais un guide du routard spécial Kaline dit, juste où trouver des fringues pas chères.
Où trouver les fringues tombées du camion.
Bah, trop bien, merci beaucoup Manon pour ce kiff.
De rien.
On espère qu'on pourra bientôt voyager.
Ouais.
Oui.
Un kiff doux, amer.
Je vais aller en Écosse.
On aime beaucoup en avoir dans Laisse-moi kiffer.
Pas du tout.
Kalindi, quel est ton kiff ?
Alors, mon kiff, je vais boire une gorgée de thé. D'abord, hop. J'ai lu que le thé, ça asséchait la gorge au lieu de la nourrir. Donc, en fait, quand on dit buvez du thé quand vous avez mal à la gorge, c'est une connerie. En fait, ça assèche, ça l'assèche. Donc, il vaut mieux boire de l'eau chaude simplement avec du citron et du miel. Je me suis rendu compte au moment de parler qu'on s'en battait les couilles totalement.
Non, non, j'aime bien ce moment.
Moi, j'aime bien les digressions pharmacie.
Digression pharmacie.
Digression pharmacie.
N'oubliez pas de boire l'eau du riz.
Alors... Mais pas trop souvent.
Mon kiff.
J'ai envie de te demander pourquoi il faut boire l'eau du riz. Je suis désolée.
Est-ce que ça constipe ?
Non, mais pas que. Attendez.
Parlons caca. Parlons caca, Kalindi.
Non, mais en fait, l'eau du riz est riche en amidon et l'amidon est bon pour plein de choses. Mais en fait, si tu veux pas la boire, tu peux aussi en faire un dernier bain pour tes cheveux.
Non, mais tu crois vraiment que je fais des bains pour mes cheveux ?
Il paraît que ça les rend plus
brillants. Genre, bien sûr. Je pense que je vais aller dans ma baignoire avec ma casserole d'eau du riz froide et la verser sur ma tête.
Oui, je pense que ce sera un moment dans ma vie.
Oui, je pense
qu'un jour on le fera ensemble.
Moi, je pense. Alors, peut-être avec toi.
Je pense que tu peux remplir un flacon de shampoing vide, mettre ton eau du riz, le laisser dans ta douche et l'utiliser à ta convenance.
Je crois que c'est encore pire, je vois plus Mimi s'en verser une casserole.
Mais la limite, vraiment, moi, tu vois, ma seule inspi, c'était d'aller dans ma baignoire avec ma casserole. Remplir, non, bon, bref.
Mais alors, moi, je ne jette aucune autre cuisson, jamais. Ni les asperges, ni les artichauts, ni le riz.
Mais t'en fais quoi?
Et même, tu vois, l'eau de cuisson des œufs, tu peux en faire un engrais pour
un engrais, plantes. Ça, je savais, ouais.
Incroyable, mais ça n'est pas mon kiff.
Non. Et on rattrape. C'est un salto réussi, bravo.
Puisque mon kiff, franchement, en ce moment, je suis très contente. On en parlait tout à l'heure avec Manon et Alix. Je me suis vraiment beaucoup remise à la lecture parce que j'ai toujours lu. Mais je lis surtout.
On en a parlé tout à l'heure avec Manon et Alix.
37 secondes.
Là, j'ai dit. j'ai rien à dire en ce moment, mais c'est parce que tu lis pas assez. C'est vraiment.
C'était la sortie de l'ascenseur et c'était tout.
C'était juste une remarque désagréable.
Avant qu'elle nous laisse en plan et qu'elle se barre parce qu'elle avait froid, quoi.
Mais merci, Alix, de ne pas dire la vérité.
Pour recontextualiser, Kalindi.
Enfin bref.
Je me demandais trop de quoi elle parlait. J'étais là,
on n'a pas parlé.
Si, mauvaise langue.
Ah.
Puisque juste avant, Manon était en train d'expliquer qu'elle avait une nouvelle petite lampiote rouge qui l'aidait à lire le soir et que ça l'aidait à dormir.
Donc, c'est vrai, c'est vrai.
Deux mauvaises langues. Et donc, je lis beaucoup normalement et surtout quand il fait beau, quand il fait froid, j'ai envie de rien faire que mater des films et ken. Du coup, là, en ce moment, j'ai décidé de moins boire d'alcool. Donc voilà, je vais vous parler de ma vie au global. Et pour moins boire d'alcool, j'ai décidé de faire moins de Skypero, de picoler moins. Et donc, je me couche plus tôt et je lis beaucoup plus. Et donc là, j'ai lu plein de choses chouettes et notamment un bouquin qui m'a bouleversée que j'ai acheté à Chartres. Je vous en parlais la semaine dernière. Chartres, dont vous vous rappelez, les vitraux sont mal lavés. Et ça s'appelle.
Et ce n'était pas ton kiff, rappelons-nous aussi que Chartres n'était pas ton kiff la semaine dernière.
Et donc à Chartres, il y a une très très belle librairie qui est très connue un peu partout qui s'appelle J'ai oublié.
Quel
est
bon plan ?
On est descendu à 30% des enfants. Je crois que ça s'appelle L'Esperluette. Oui, c'est
ça. Très beau nom de librairie.
Et alors, elle est très vieille, elle est très belle, bon bref. Et là-bas, j'ai trouvé un livre de Camus que j'avais jamais lu, qui s'appelle « L'exil et le royaume ». Et en fait, j'ai lu les premières pages, ça m'a tout de suite happée. Et du coup, je l'ai acheté avant de comprendre que c'était un recueil de nouvelles, et je déteste ça. Les recueils de nouvelles. Pourtant, l'autre jour, je me suis dit « Kalindi, il faut parfois essayer de changer d'avis, on ne sait pas ». Donc, lis « L'exil et le royaume ». Déjà, je trouve que le titre est trop beau, il y a écrit « Prix Nobel de littérature ». Snob comme je suis, je peux pas y échapper, je me dis « Il faut que je lise ». Hop, donc je lis
bon,
ça.
Bon, Camus, c'est quand même une valeur sûre. Quoi. Si t'aimes bien un Camus, a priori, t'aimes bien un Camus.
Oui,
quoi.
Exactement. Et alors, vous saurez, puisque j'ai pris des notes aujourd'hui, que ce recueil de nouvelles d'Albert Camus, paru en 1957, est la toute dernière œuvre à avoir été publiée de son vivant. Eh oui. Après, il est mort.
Alors, c'est ce que ça signifie.
C'est
ouais.
La définition.
C'est survivant, c'est que c'est sa mort, ouais.
Peut-être que pour compenser le fait qu'on a la moitié des infos, on peut dire deux fois toutes les infos qu'on a.
Et donc, ça fait
comme ça, on remonte à
non, mais même 80%.
Et donc,
non.
Il y a six nouvelles dedans, dont la première, celle qui m'a le plus marquée, la dernière aussi, qui est très belle. Mais la première s'appelle La femme adultère. Et en fait, tous les textes tournent autour de personnages qui n'arrivent pas à trouver leur royaume. C'est-à-dire, en fait, métaphoriquement, n'arrivent pas à trouver leur bonheur et leur raison d'exister, quoi, leur raison de vivre. Donc c'est globalement la dep, on va pas se le cacher. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a émue dans la première nouvelle, qui m'a bouleversée. Même j'ai lu trois fois et je l'ai lu à mon mec avant-hier avant de dormir. C'est le destin d'une femme qui en fait accompagne son mari vendre des alors on sait pas exactement ce que c'est mais des vêtements je crois en Algérie du Sud et en fait cette meuf se rend compte en arrivant là-bas que ça ressemble pas du tout à ce à quoi elle s'attendait, c'est-à-dire que elle avait l'impression qu'elle pensait qu'il allait faire hyper chaud, que ça allait être stylé. En fait elle arrive, c'est l'hiver en Algérie, donc il fait un froid sec, tout le monde la snob un peu, personne lui parle vraiment là. Ouais, à ce moment-là elle se sent extrêmement seule, mais elle se sent pas que seule parce que personne ne lui parle. Elle se rend compte qu'elle est profondément seule, puisque son mari et elle ne communiquent plus depuis des années et qu'en fait ils continuent à vivre ensemble comme ça par habitude. Et en fait elle à un moment donné elle monte sur un espèce de bâtiment, je sais plus exactement ce que c'est, encore une super info, elle monte en haut d'un bâtiment sur le rooftop on va dire
sur le rooftop de la cathédrale de Chartres.
Et donc elle commence à regarder le désert et là elle a une épiphanie, elle se dit mais attends, mais qu'est-ce que c'est que la vie de ces gens qui vivent sous ces tentes comme ça, ça a l'air incroyable, à la fois rudimentaire et à la fois empreint de liberté comme style de vie. Et donc elle commence à projeter ses fantasmes sur ce peuple de nomades et ça va changer sa vie à tout jamais. C'est d'une beauté, c'est à crever tellement c'est beau, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Je vais vous en lire un passage que j'ai sur les...
Ah oui,
oh, oui.
Elle a corné les pages,
la lecture. Mais du coup, maintenant, tu fais comme Mimi, tu lis à ton gars.
Non, mais là, c'était vraiment trop beau. Normalement, je le fais jamais. En plus, je lis très mal. Mais là, c'était trop beau pour pas que je lui lise.
Ouais.
Alors, attention, c'est la dep. Il s'aimait dans la nuit, sans se voir, à tâtons. J'ai peur que Mimi me juge.
Non, mais je suis pas l'électrique juge. Pro, hein, t'inquiète.
Y a-t-il un autre amour que celui des ténèbres? Un amour qui crierait en plein jour? Elle ne le savait pas. Mais elle savait que Marcel avait besoin d'elle et qu'elle avait besoin de ce besoin, qu'elle en vivait la nuit et le jour, la nuit surtout, chaque nuit, où il ne voulait pas être seul, ni vieillir, ni mourir, avec cet air buté qu'il prenait et qu'elle reconnaissait parfois sur d'autres visages d'hommes, le seul air commun de ces fous qui se camouflent sous des airs de raison, jusqu'à ce que le délire les prenne et les jette désespérément vers un corps de femme pour y enfouir, sans désir, ce que la solitude et la nuit montrent d'effrayant. C'est beau, hein?
Oh, c'est beau. Ah, les poils un peu.
Oh oui, c'est beau. C'est beau, c'est magnifique. Ouais. Donc, je vous encourage tous à lire L'Exil et le Royaume et peut-être à pousser votre connaissance de Camus un peu plus loin et d'acheter un livre que je me suis procuré il y a quelques mois et qui s'appelle Conversations et qui, en fait, sont les échanges épistolaires entre Albert Camus et son amour de toujours qui était Maria Cazares, qui était une actrice. Et donc, c'est 1000 pages de leurs échanges amoureux. Alors, ça se lit pas comme un roman en deux jours, quoi. C'est clair que moi, j'en lis de temps en temps quelques pages, comme ça.
Mais t'en avais pas parlé? Non.
Non.
Ah, ok.
Non, j'en ai jamais parlé. Et donc, ouais, voilà, parfois, ça se prend quand on a 5 minutes, ou aux toilettes, ou quoi, quand on a un peu de temps, on en lit quelques pages, et puis on l'abandonne, et puis on le retrouve, machin. Mais moi, j'ai découvert plein de choses sur Camus que je ne savais pas. Plein de choses sur elle, parce que j'avais vu quelques-uns de ses films quand j'étais au lycée, mais je savais pas qu'ils avaient été amants, je savais pas qu'ils s'étaient aimés pendant tout ce temps-là, et que la mort de Camus a été le drame de Maria Cazares. Et vraiment, tout est écrit sublimement, enfin, tout est incroyable. Donc, je conseille L'Exil et le Royaume, et pourquoi pas Conversation, ça fait deux kiffs en un. Voilà,
wow. Hey, incroyable, merci beaucoup Kaline.
Mais je vous en prie.
Ça fait
je peux poser une question?
Oui.
Pourquoi t'aimes pas les recueils de nouvelles?
En fait, je trouve que... En fait, c'est exactement pour la même raison que j'aime pas les patchwork au cinéma. Je trouve que tout est très inégal, tu vois. En fait, tu vas aimer un truc profondément et du coup, t'as trop hâte de commencer la seconde nouvelle. Et en fait, la seconde, elle te déçoit. Du coup, t'as une humeur en demi-teinte. Et c'est comme, par exemple, Love Actually. Je déteste Love Actually déjà pour ce que c'est. Mais aussi, je le raconte dans l'excellent podcast présenté par Alix Martineau Affiché.
Vous aurez les liens dans les notes du podcast.
Mm-hmm. Que, en fait, tu vois toutes les des histoires, il y en a forcément que t'aimes moins que d'autres, et du coup, bah, tu passes la moitié de ton temps à te faire chier, alors que tu pourrais prendre un bouquin qui fait 500 pages et pendant deux jours t'éclater, quoi.
Alors, moi, ça me fait pas trop ça, mais ça me fait ça sur les bouquins, pas forcément les recueils de nouvelles, mais les bouquins avec des points de vue différents. Et tu sais, ça alterne.
Ah oui.
Je déteste. Vraiment, oui, j'aime alors... pas du tout.
Ça, j'aimais pas non plus jusqu'à ce que je vois cette série que j'adore, alors que vraiment beaucoup de gens la critiquent, alors que c'est la meilleure série du monde, qui s'appelle The Affair.
Et, c'est bien The Affair.
C'est vraiment hyper bien. Ils sont un peu partis en couille à un moment donné. T'as dit quoi?
C'est ouf. Je viens de me rappeler de la saison 1 de The Affair et je suis là, c'était incroyable.
Tu as aimé
série.
Pour une fois qu'on aime quelque chose.
J'ai aimé au moins deux ou trois saisons, après j'ai pas fini. Parce que ça partait un peu en couille.
Ouais.
Mais la puissance des deux premières saisons, c'est incroyable.
Ouais, je suis grave d'accord. Et bah juste pour pitcher vite fait, c'est l'histoire d'un homme qui est marié à une femme depuis très longtemps, qui a quatre enfants avec elle, et qui décide un jour de partir à Montauk.
Comme dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Exactement. Et en fait là-bas, il rencontre une serveuse avec qui il va vivre une relation adultère. Et en fait, la première saison, parce qu'après il y a plusieurs points de vue qui s'ajoutent, mais la première saison est divisée entre principalement le deux points de vue. Celui de ce gars qui trompe sa femme et celui de cette femme qui trompe également son mari avec ce même gars. C'est compréhensible ou pas du tout?
Ouais.
Et donc à chaque fois
moi j'ai vu, donc je sais pas. En gros,
Oui.
C'est lui et ensuite elle. Et en fait, ça montre à quel point bah, lui projette des trucs sur elle, elle projette des trucs sur lui, qu'en fait, on sait pas vraiment où se trouve la réalité puisque tout le monde fantasme. Et c'est hyper bien. Et du coup, c'est la seule fois où j'ai vu un truc avec des points de vue différents. Je me suis dit, putain, c'est hyper bien gaulé. Et en fait, ça apporte vraiment quelque chose qui est ce truc de fantasme. Ouais. Voilà, donc
après, cela dit, Game of Thrones existe. Chaque chapitre, c'est un point de vue différent. C'est quand même reconnu comme pas mal, très bien. Donc, il y a d'autres exemples. Voilà, c'est tout ce que je veux dire.
Non, mais... oui, mais en fait, moi, je trouve que ce qui est mauvais dans l'écriture de ce genre de bouquin, en tout cas, c'est le côté, hein, on veut un peu te faire des cliffhangers là où il en existe pas. Mmh. Et du coup, ils essaient de te dire, eh ben, attends, tu verras après
on
le prochain chapitre.
On change de point de vue, ok.
Je déteste. Moi, j'ai trop du mal à me réimprégner... vite,
oui, il y a un peu
vois,
un côté. Enfin... Attends, on en était où? Parce que là, du coup.
Bah, moi, j'étais deep avec la personne, tu vois, et là, il faut me sortir et me réextraire avec une autre personne. Bon, bref.
Très bien.
Voilà, voilà. Bah, merci beaucoup, Kalindi. Très
rien,
beau kiff. Très,
rien.
Très beau kiff. Moi, je continue avec un kiff poétique. Un kiff, voilà, qui est littéraire aussi. C'est Michael Scott.
Michael Scott.
Un kiff récent.
Un kiff récent, c'est Michael Scott, un personnage de The Office. Alors, j'ai du contexte à faire. En fait, j'ai regardé The Office tard et je l'ai regardé 3-4 fois en entier. La première fois, je pense que tu regardes The Office en aimant Jim au premier degré, tu vois.
Genre, jamais.
T'as jamais aimé Jim?
Non.
T'as jamais aimé leur histoire d'amour?
Il est insup. Alors déjà, c'est pas Mimi, et vraiment, enfin c'est Jim pour moi, c'est typique. Alors, contexte pour ceux qui savent pas, The Office, c'est une série comique sous
Merci
forme de faux documentaire
contexte.
Qui se passe dans une petite boîte nulle qui fait quoi? Des papiers
papier,
de
du papier.
Du papier
paper
dans
company.
Un bled nul des États-Unis, et donc il y a ce mec Michael Scott
Scranton.
Qui, aux US, est joué par Steve Carell. À la base, c'est une série britannique de Ricky Gervais, mais c'est plutôt la version américaine, je crois, qui est
Merci
connue en
France. Merci de contextualiser mon kiff, putain de rien.
Et donc dedans il y a un perso qui s'appelle Jim et Jim a une relation enfin bref il y a une romance avec une meuf qui s'appelle Pam qui est la secrétaire et tout le monde est là Jim et Pam c'est le meilleur couple. Je suis désolée, Pam elle se fait harceler sexuellement
ouais,
au travail, Jim il fait des regards caméra pour faire des vannes. Je suis là, en fait au bout d'un moment être un allié mon gars c'est peut-être dire au gars qui harcèle sexuellement la meuf
ah
que
oui,
t'aimes bien de pas le faire.
Mais je suis d'accord.
Et Jim c'est typiquement le genre de mec qui est dans un endroit médiocre et qui lui pense qu'il vaut mieux que tout le monde
ouais.
Mais qui se dit pas qu'il est en fait s'il est dans l'endroit médiocre avec tout le monde c'est peut-être parce que soit les autres sont pas aussi médiocres qu'il le croit, soit lui il est médiocre aussi. Et vraiment les gros poissons dans les
ouais.
petites mares, je déteste ça. Du
mais
coup,
c'est
minute 1, j'étais là, connard.
Mais tu sais que ça se retourne contre
ouais,
lui.
Mais oui,
bah,
quand
même. Limite.
Bah non, j'ai pas fini, j'aime pas The Office.
Ah, pas
peut-être
The Office.
Que je commence par. Enfin, je, bah, c'est trop cringe pour
en
moi.
En fait, ça se retourne contre lui à la fin, parce qu'à la fin, il passe vraiment pour un débile, tu vois. Enfin,
et bah tant mieux.
Parce que en vrai, je pense que la première lecture
pas
de The
moi
Office.
Aussi, elle est nulle. Hein.
Mais je vais te laisser faire pas, moi j'ai roulé sur Jim.
Mais en fait, c'est que des. Enfin, je suis désolée, mais c'est. Enfin. Je sais pas, c'est... on dit que c'est les plus normaux, enfin, entre guillemets, les personnages les plus normaux, mais c'est aussi, bah voilà, forcément, c'est un peu les plus boring aussi, tu vois. Et du
bah
coup,
oui, dans
je
une
pense
série
que là.
Où tout le monde est zinzin, les deux mignons qui ont une petite romance, c'est pas le plus intéressant, quoi.
C'est ça, et je pense qu'au début, je l'ai regardé en les aimant au premier degré. Ensuite, je l'ai regardé une deuxième fois en les détestant, j'étais là. Ah, et j'aimais Dwight, qui est donc
Dwight.
Le collègue de Jim.
Lui, il est maxi zinzin.
Lui est maxi zinzin.
Et complètement super, taré.
Il est mais super sérieux et vraiment
premier
Doug dans tout ce qu'il fait. Et du coup...
Il est un peu violent comme garçon, tout de même.
Mais il est extrêmement violent, mais c'est un malade mental, il cache des armes dans la...
C'est la culture de la betterave qui le rend comme
c'est
ça.
C'est la culture de la betterave.
Forcément pour ça.
C'est quoi? C'est comme dans Alphonse Brown. La culture de la betterave.
Merci, je me suis dit que j'allais pas en citer Fatal Bazooka.
On y a toutes pensé.
Et donc bref, deuxième rewatch, j'étais là, Dwight et tout, putain, en fait... Pareil, il se fait bolos au début. En fait, c'est un zinzin, mais il a un côté, voilà, où il aime vraiment Angela. Bon, bah voilà, j'ai spoilé The Office.
Ouais, mais après, je trouve qu'il est, enfin, il est trop l'intérêt poussé au ridicule. Tu vois, son mais personnage c'est ça. Est trop exploité.
Et donc, troisième rewatch, c'est là où j'en viens à Michael Scott.
Ton kiff.
Michael Scott, c'est la personne la plus problématique que j'ai jamais vue, parce que c'est quelqu'un qui fait donc. Et c'est la spécialité de The Office, tu vois, il fait des remarques racistes, il fait des remarques sexistes.
Grossophobe.
Il est grossophobe. En fait, il a toutes les tares, mais il a ce côté aussi hyper innocent où il veut pas l'être, du coup il l'est. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, c'est,
absolument
c'est en
pas être raciste.
D'être problématique qu'il est problématique.
Mais on dirait qu'il a pas été élevé, en fait.
Mais non, mais il n'a pas reçu une éducation.
Il n'a pas été élevé du tout.
Mais du coup, il est. Enfin, tu vois, il veut absolument tellement pas être raciste qu'à chaque fois, il appelle les gens. Genre, il y en a une qui s'appelle Kelly Kapoor. Et donc, à chaque fois, il lui rappelle qu'elle est indienne. Enfin, tu vois, c'est vraiment un enfer. Et à chaque fois que je regardais, j'étais là. Il est drôle, tu vois, mais j'ai du mal à rigoler de tout ce qu'il fait. C'est vraiment zinzin, même si c'est pour se foutre de sa gueule. Voilà. Mais il y a un truc que j'aime bien chez Michael Scott, c'est son management. Et alors...
Attention. En tant que ta manager, je vais ouvrir une oreille attentive à ces conseils de management issus de Michael Scott dans The Office.
Mais non, mais moi, les premières fois que je regardais The Office, j'étais là, comment ça se fait que Michael Scott, ce soit le pire boss. Vraiment, la série veut démontrer ça, que c'est le pire boss. Et pourtant, il a la succursale qui réussit le mieux de toute l'entreprise. Et à chaque fois, les gens sont là. En fait, on ne sait pas comment tu fais parce que ça se voit que t'es un imbécile.
Excusez-moi, j'ai jamais su ce que voulait dire succursale.
C'est une branche, tu sais, c'est une sorte de... T'as l'entreprise et t'as des sortes de filiales, tu vois.
Merci.
Et ils appellent ça branch en anglais. Et donc, bref... Où est-ce que j'en étais?
Que sa succursale a du succès alors que c'est le pire boss.
Alors que c'est le pire boss.
Mais justement, c'est parce qu'il bosse pas en fait.
Mais c'est parce que en fait, il a. En fait, c'est comme disait Kalindi quand je lui en ai parlé. C'est des éclairs de génie des imbéciles. C'est un gars. Il veut tellement. En fait, il a réussi à s'entourer de gens qui savent faire son travail à sa place. Et du coup, c'est le meilleur manager. Moi, mon père. Non, mais c'est vrai. Quand, en fait, un manager, quand il peut déléguer tout à ceux qu'il a employés, bah, ça veut dire qu'il a réussi, tu vois. Il est juste le chef.
Ouais, c'est ça.
Il a fait rien.
Ouais. Tu manages personne. Tu t'occupes de R.
Et je pense aussi, j'ai une autre théorie, c'est qu'il empêche tellement les gens de travailler que, du coup, les gens sont beaucoup plus efficaces dans les tranches de
moments où ils doivent bosser.
Ouais, j'aime bien. J'aime bien, ouais, le côté, en fait, t'es tellement... déconcentré tout le temps par toutes les conneries de Michael Scott que les deux heures où tu peux vraiment bosser tu vas le faire à fond parce que t'es là mais il me saoule parce que du coup je suis en retard et du coup tu vas être vachement plus efficace que si t'avais bossé 8 heures
comme quoi on n'a pas besoin de faire des si grosses journées pour taffer en fait.
On pourrait sinon installer un château gonflable dans le bureau afin de se distraire pendant la majorité de la journée avant de travailler vite et bien pendant 2 heures.
Mais tu sais que
et
c'est toi Mimi qui m'avait dit que le cerveau pouvait pas se concentrer beaucoup plus que 20 minutes.
Oui, c'est enfin tu sais la théorie derrière la méthode de productivité Pomodoro, voilà, qui consiste à faire 25 minutes un truc, après 5 minutes de pause, 25 minutes on reprend, etc.
Bon après avec Michael Scott c'est plutôt genre 5 heures de pause, 20 minutes de travail.
Ouais, c'est plus ça, ouais. Un bon ratio.
Voilà, mais en fait je trouvais que je me suis vraiment dans les deux premières fois que j'ai regardé The Office j'étais là pourquoi mais pourquoi ça marche pourquoi et j'ai analysé ça. Et je trouve que voilà, j'ai trouvé la clé de The Office.
Très belle théorie.
C'est le troisième degré de retardage de The Office. Est-ce qu'il y en a un quatrième? Dites-moi. Si jamais. Je sais pas qui je vais aimer ensuite. Enfin, qui je vais aimer. Ouais, parce que je pense que tu rentres dans The Office à travers le regard de Jim. Parce que, En vrai, Jim, c'est celui qui fait des regards caméra, celui qui, en fait, te dit on est vraiment dans un monde de zinzins, et voilà. Et du coup, tu t'attaches à lui, et après, tu captes qu'en fait, les zinzins, c'est peut-être les plus gentils, tu vois. Enfin, les moins vicieux.
C'est pas ceux à qui on pense, ouais.
Et Michael Scott, il a beau être un débile profond, c'est pas un mec. Quoique. Il a des vices quand même, parce qu'il déteste donc le mec de Toby. Des RH, Toby ouais. Flanderson, qui, il faut le dire, est quelqu'un de super boring, mais Michael Scott, lui, il veut que des gens fun, il veut que tout le monde s'amuse au bureau.
Ah,
et
oui,
en
oui,
fait,
oui.
il a toujours des fins de. En fait, les épisodes durent 20 minutes, et à la fin de chaque épisode, t'as une sorte de. Je sais pas, c'est pas un mantra, tu vois, mais il a un petit monologue, Michael Scott, où il dit, bah voilà, en fait. Et puis, il donne une leçon de management qui est débile.
À côté de la plaque, les trois quarts du temps. Ouais.
Mais à côté de la plaque, et en même temps, c'est à côté de la plaque parce qu'on vit dans le capitalisme, tu vois. En vrai, si on écoute Michael Scott, c'est un mec qui dit, bah en fait, le business, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les rentes, c'est les gens, tu vois. Et en vrai, non, mais c'est.
J'ai pas assez regardé The Office pour te dire oui ou non, tu vois, je suis juste en
non,
mode
c'est
ah
vrai,
bon.
Il dit ça et c'est non, toujours les gens, il essaie de créer une famille autour de motiver les gens, il fait toujours des présentations, tout le monde est là mais ça sert à rien de faire 20 réunions, tu vois, où il parle de planètes qui ont rien à voir avec le sujet, tu vois. Et en fait, il finit par intéresser les gens un peu parfois contre son gré, mais je sais pas, je le trouve intéressant en tant que manager.
Mais il peut être pertinent, mais le problème, c'est que lui, si tu l'écoutes, en fait, il faut faire aucune différence entre ta famille et tes collègues de boulot.
Mais oui,
en
mais
fait,
parce que Bichette, c'est quelqu'un de très sale.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
C'est quelqu'un de super sale. Et non, mais je dis pas que c'est le parfait manager, je dis juste que j'ai décelé dans son management des éclairs de génie, quoi. C'est, je pense que c'est un génie incompris.
Malgré lui, en plus, oui.
Mais complètement malgré lui. Mais ça c'est sa capacité à sentir les gens aussi et à s'entourer des bonnes personnes. Voilà.
Très c'était bien. Mon merci pour cette leçon de management.
Je sais pas si une leçon mais
apparemment mon but ultime en tant que manager est de plus rien foutre parce que j'ai mis les bonnes personnes au bon
oui.
endroit. J'y suis pas encore mais j'y avance, j'y travaille.
Ma passion.
Tu c'est... nous empêches pas c'est de travailler Mimi je trouve.
Ah oui,
le château gonflable.
Écoute, château gonflable, tout à fait.
Et un laser game.
À un moment il organise une soirée dans une cuisine. Et il est vénère parce que personne ne vient. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que tu vois, il essaie de mettre du fun dans le bureau et personne ne veut, tu vois. Du coup,
en même temps, il est
les gens
c'est
à avoir
gênant tout le temps ces animations et tout.
Mais c'est moi, je trouve ça du génie. Moi, j'adore les trucs cringe. Donc forcément, j'adore The Office. Si vous n'aimez pas le cringe, ne regardez pas The Office ni le tellement vrai que j'ai réalisé qui est très cringe.
Ah, il fallait le caser. Hein. Combien de vues ?
Là, on doit être à 30 000.
Eh ben j'ai.
Bah parce qu'en fait les gens pensent que c'est un vrai. Du coup c'est sur YouTube en ce
très
moment.
Très bon référencement.
Ah non mais on est en fait.
Mets ton Insta, des... hein, le swipe.
Le swipe at Alix Martino, Alix MRTN, allez suivre et surtout allez regarder Tellement Vrai et qui est dans ma bio sur Instagram. Mais franchement les gens commentent au premier degré. Du coup il y a 90 commentaires de gens premier degré et tout. C'est Le 2 est en production. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Très bien. La meuf se
tease. J'ai trop hâte.
Voilà. Eh bien, c'est la fin de ce 127e épisode de Laisse-moi kiffer. Et qui aura duré quand même longtemps. On a bien enregistré plus d'une heure.
On a digressé vite et bien.
Ouais, c'était très
non,
très bien.
On est efficace aujourd'hui, dis donc.
Ouais,
on a parlé
on était très bien.
Nautique quand même. Parce que
oui,
t'es pas au programme.
Mais bon.
Non, mais c'était top. Merci. À vous trois d'avoir été là.
Oui,
merci aux auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode et tout LMK en règle générale, mettez-nous
5 étoiles
sur
Apple Podcast.
Laissez-nous votre commentaire ou votre anecdote de star. Si vous avez des jingles ou des dédicaces, envoyez-les-moi à laisse-moi kiffer@mademoiselle.com. Et en attendant la semaine prochaine, touchez-vous bien le kiki.
Oh, wow. Calais, elle avait check out.
Souris.
On peut le refaire.
Ouais.
Et en attendant la semaine prochaine,
touchez-vous bien, Kiki.